Et à Conakry, 21h à Tombouctou et à Bamako. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Épidémie d'Ebola, le bilan ne cesse de s'alourdir. Le ministre de la Défense du Libéria a lancé un cri d'alarme hier à l'ONU.
Nous nous réunissons alors que le Libéria fait face à une sérieuse menace à son existence nationale.
Nous serons ensuite à Tombouctou au Mali, qui amorce son retour à la paix. Reportage de Kassim Traoré à suivre. Enfin, l'ONG One dénonce le blanchiment d'argent, la fraude et la corruption qui feraient perdre plusieurs dizaines de milliards de dollars aux pays en voie de développement. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Au micro, Lola Komachri pour la présentation du bulletin d'information. La justice sud-africaine a condamné 4 personnes à 8 ans de prison chacune dans l'affaire de la tentative de meurtre de l'ex-général rwandais Kayamba Nyamwasa. Les 4 accusés, un rwandais et 3 tanzaniens, ont été reconnus coupables d'avoir tenté en juin 2010 de tuer Nyamwasa à Johannesburg. L'ex-général rwandais avait été blessé par balle à l'estomac à son domicile, mais avait survécu. 2 autres Rwandais dont le cerveau présumé de l'affaire ont été acquittés. Selon le juge sud-africain Stanley Mkari, la tentative d'assassinat de Nyamwasa était politiquement motivée. L'ex-général rwandais s'est dit satisfait des sentences, mais a averti que de nombreux exilés rwandais à travers le monde sont en danger. Au Niger, un nouveau rebondissement dans l'affaire de trafic de bébés. Le président du Parlement nigérien, Ama Amadou, souhaite qu'un mandat d'arrêt international soit lancé contre lui. C'est ce qu'il a annoncé sur Radio France Internationale. Mesure qui, affirme-t-il, lui donnera l'occasion de se défendre. Aujourd'hui en France, le président du Parlement, principal opposant du président Mahamadou Issoufou, s'est enfui au Burkina Faso le jour où ses pairs avaient autorisé son audition par la justice pour une affaire de trafic de nouveau-nés en provenance du Nigeria. L'une des épouses de M. Amadou est incarcérée dans le cadre de cette affaire. Bilan toujours à la hausse pour l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Plus de 200 décès ont été enregistrés en seulement 4 jours. L'Organisation mondiale de la santé fait état d'un total de près de 4300 cas d'Ebola enregistrés dans 5 pays ouest-africains. Sarah Diaby.
Près de la moitié des malades et décès ont été signalés au Libéria. Un rapport de l'OMS sur ce pays, publié lundi, a averti que l'on devrait s'attendre à des milliers de nouveaux cas probables au cours des 3 prochaines semaines. Karine Landgren, la représentante spéciale des Nations Unies pour le Libéria, estime que la crise aura une incidence sur le pays bien au-delà de l'urgence médicale actuelle. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il y a d'autres crises qui se cachent dans l'ombre du virus Ebola. Le système de santé régulier s'est effondré, ce qui a créé d'autres problèmes de santé dans son sillage. Des pénuries alimentaires sont signalées du fait de la hausse des prix des produits de première nécessité, a averti la diplomate. Selon l'OMS, la transmission rapide de la maladie continue aussi en Guinée et en Sierra Leone. Les États-Unis ont promis mardi de nouveaux fonds à hauteur de 10 millions de dollars pour soutenir les efforts croissants contre Ebola en Afrique de l'Ouest. Par ailleurs, le Pentagone a annoncé que son personnel a mis en place un hôpital de campagne de 25 lits à Monrovia, la capitale libérienne, pour les travailleurs de santé infectés.
Droits de l'homme en Gambie, Amnesty International et Human Rights Watch appellent le président Yahya Jammeh à invalider une loi instituant la prison à vie pour homosexualité aggravée. D'après ces organisations, la loi récemment votée par l'Assemblée nationale pourrait permettre de condamner des personnes séropositives à vie.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Dans la région du Cachemire, les efforts de secours se poursuivent après les inondations qui ont fait au moins 457 morts en Inde et au Pakistan. Des milliers de personnes ont fui leur maison. Au Pakistan, ce mercredi, plus de 75 000 personnes sont affectées par les pluies diluviennes qui se sont abattues pendant une semaine sur la région. Ironie du sort, les pluies de la mousson qui causent tant de dégâts entre juin et septembre de chaque année sont un élément élément vital pour l'agriculture en Asie du Sud. Fin de ce bulletin d'information, la suite de Sahel Plus avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Nous ouvrons l'émission par l'épidémie de virus Ebola dont le bilan ne cesse de s'alourdir. L'Organisation mondiale de la santé décompte désormais 2296 morts, dont près de la moitié enregistrés ces 21 derniers jours. Le point sur l'épidémie avec Michel Joseph.
Plusieurs milliers de nouveaux cas d'Ebola sont attendus au Libéria dans les trois prochaines semaines, avertit le nouveau rapport de l'OMS qui a fait l'effet d'un nouveau coup de tonnerre. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il serait même irréaliste de vouloir arrêter la propagation du virus dans les zones où le nombre de cas augmente exponentiellement, comme dans la capitale libérienne Monrovia. Dans ces zones, nous vivons une stratégie en deux étapes. D'abord, réduire la transmission autant que possible. Puis, quand elle deviendra contrôlable, nous essaierons de l'arrêter complètement, préconise l'OMS. La saturation des centres de traitement favorise la contagion, a souligné l'OMS. Les malades, obligés de rester dans leur quartier, contaminant inévitablement leur entourage. Afin de pallier à cette pénurie, l'organisation recommande l'équipement et la formation des populations pour prendre soin avec plus de sécurité des patients d'Ebola qui ne peuvent être hospitalisés, y compris par la distribution de matériel de protection aux familles.
L'Ebola, qui est devenu au Libéria une urgence sanitaire dépassant les capacités du gouvernement à y répondre, tel est le cri d'alarme qu'a lancé hier au Conseil de sécurité de l'ONU le ministre libérien de la Défense.
Le Libéria est le pays le plus affecté par l'épidémie. 9 de ses 15 comtés sont touchés et le ministère libérien de la Santé situe le bilan à plus de 2000 cas et plus de 1000 décès. Aucun segment de la société n'est épargné, a souligné le ministre libérien de la Défense hier au Conseil de sécurité. Nous nous réunissons alors que le Libéria fait face à une sérieuse menace à son existence nationale. Le virus mortel de l'Ebola a causé une perturbation du fonctionnement normal de notre pays, a déclaré Brownie Samukai. Parmi les mesures prises par le gouvernement pour contrôler la crise, le ministre libérien de la Défense a cité l'instauration pour 90 jours de l'état d'urgence, le couvre-feu, la mise en congé du personnel non essentiel et l'isolement des communautés sérieusement touchées.
In spite of all of these measures,
en dépit de ces mesures, les dénégations, les pratiques traditionnelles, les rituels religieux, la peur et la résistance des communautés continuent d'entraver tout progrès. À présent, le Libéria manque d'infrastructures, de capacités logistiques, d'expertise et de ressources financières pour combattre effectivement l'Ebola, a expliqué le ministre Brownie Samukai, tout en se félicitant de l'appui de l'ONU et de la communauté internationale. La propagation de la maladie a été impitoyable, a noté de son côté la représentante de l'ONU au Libéria. La vitesse et l'ampleur des pertes en vie humaine au plan économique, social, politique et les répercussions sécuritaires de la crise affectent profondément le Libéria, a dit Madame Karine Langren. Selon la représentante de l'ONU, le risque d'instabilité s'accroît alors que le système sanitaire se débat, l'économie souffre, les pénuries alimentaires s'étendent, entraînant par exemple le report des élections sénatoriales prévues en octobre. La mission onusienne est complètement concentrée sur son objectif de combattre l'Ebola et a apporté un important soutien logistique à la réponse du gouvernement libérien, a souligné Madame Karine Langren.
Direction le Mali, où la ville de Tombouctou amorce son retour à la paix, mais non sans difficulté. Le retour des réfugiés ou des déplacés pose de sérieux problèmes de réinsertion. La sécurité n'est toujours pas garantie dans tous les cercles de la région et l'État malien peine à satisfaire les besoins élémentaires comme l'eau, la santé, la sécurité ou même l'école. La société civile et d'autres partenaires de la cité des 333 saints s'activent pour que Tombouctou puisse retrouver son lustre d'antan. C'est ainsi que les mausolées de Tombouctou seront bientôt réhabilité, mausolée qui avait été détruit ou endommagé par les djihadistes lors de l'occupation. La correspondance de Kassim Traoré.
16 mausolées sont placées patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est au total 14 mausolées et quelques tombes de saints qui avaient été détruits par les djihadistes entre avril 2012 et janvier 2013. El Boukhari Ben Essaouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou.
Pour une fois qu'on a l'occasion de refaire ce trésor du passé, on a dit de refaire à l'original. Et refaire à l'original voudrait dire que les mausolées soient comme ils sont depuis le 14e, 15e, 16e, 17e, 18e siècle. Donc cela nécessite un travail de documentation. Donc avec les architectes, avec les archéologues, on est en train de faire un travail en profondeur. Un planning a été fait avec la Direction nationale du patrimoine culturel, l'UNESCO. Cela nous permettrait, je pense, de démarrer effectivement les travaux en septembre.
Avec les travaux de reconstruction de la ville et les activités des partenaires, la ville sainte retrouve petit à petit son monde. L'Habib Ouldou Mohamed, maire adjoint de la commune rurale de Salam, explique.
Le retour, ça a été volontaire de moi-même. Je suis retourné, je suis allé voir l'UACR avec quelques familles. J'ai dit, bon, nous souhaitons retourner. Les conditions de vie qui sont là, vraiment, nous sont très difficiles. Et que aujourd'hui, nous pensons que le Mali, bon, il y a quand même un acquis, un certain acquis quand même de paix. Je pense, en tant qu'élu, je dois retourner pour mieux organiser ma communauté et leur préparer même leur retour et un peu donner une stabilité à ceux qui se sont déplacés, à ceux qui sont aussi restés. Il faut qu'ils aient une voix quand même, quelqu'un qui parle.
Si le maire de Salam est de retour, les populations du cercle de Gourmararous sont dans la peur et l'insécurité, mais elles souhaitent le retour des siens parmi elles.
Notre cercle est devenu une zone d'insécurité et les populations ont très peur pour tout ce qui est en train de se passer. Et quand on apprend que le contingent qui est chez nous va partir et ne sera pas remplacé, je dis que ça fait peur et nous nous considérons comme des abandonnés.
Nous avons comme préoccupation primordiale d'abord le retour de mes administrés qui sont basés à Mbera, à Fassala et dans d'autres camps de réfugiés.
Face à cette question d'insécurité et des droits de l'homme, la mission multidimensionnelle des Nations Unies MINUSMA a initié une série de formations sur les droits de l'homme à l'intention des acteurs de la société civile de Tombouctou.
La journée nous permet aujourd'hui de voir les dispositifs, de voir les difficultés et de voir quel est le cadre idéal qui permette vraiment à ce que le droit de l'homme dans la région devienne opérationnel et efficace.
Nous attendons à ce que nous ayons, à travers les thèmes, des connaissances qui vont nous renforcer, qui vont nous amener à faire davantage, à apporter un plus en matière de droit.
La question des droits de l'homme, des justices, sera au menu des pourparlers d'Alger, auquel prennent part deux représentants de la région de Tombouctou, Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Et nous terminons l'émission par le blanchiment d'argent, la fraude et la corruption qui coûtent très cher aux pays en développement, selon le nouveau rapport de l'ONG One qui s'est appuyé sur des données publiées par les Nations Unies et le Fonds monétaire international. Cette ONG britannique de défense de la bonne gouvernance, fondée par le chanteur irlandais Bono, chiffre la perte annuelle des recettes fiscales à entre 38 et 64 milliards de dollars. One a publié son rapport à l'approche de la prochaine réunion du G20, prévue les 20 et 21 septembre en Australie. La directrice du bureau de One en France, Frédéric Roder, revient sur ce rapport intitulé « Le casse du siècle ».
Notre rapport « Le casse du siècle » montre qu'il y a au moins 1000 milliards de dollars qui s'échappent chaque année des pays en développement. Vous le dites, c'est une somme tout à fait colossal. 1000 milliards, c'est 12 zéros. C'est une somme qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et bien sûr, elle a des conséquences terribles pour les pays pauvres, parce que ça veut dire que cet argent n'est pas taxé comme il aurait dû l'être. Il y a donc un manque à gagner pour les États africains ou d'autres pays pauvres. En fait, on estime ce manque à gagner à autour de 60 milliards de dollars par an. Et c'est de l'argent, du coup, qui manque notamment pour les investissements dans les soins de santé, dans l'agriculture, dans l'éducation.
Mais alors, c'est de l'argent qui vient du secteur public ou du secteur privé ou des deux ?
C'est de l'argent qui vient des deux. On a utilisé différentes méthodologies pour arriver à cette estimation. puisque bien sûr il s'agit de flux financiers illicites, donc il est très difficile d'avoir des chiffres. Donc on a croisé différentes méthodologies. C'est de l'argent qui pour une partie aurait dû se retrouver dans les caisses de l'État et qui est détourné par exemple à cause de la corruption. Il s'agit aussi d'argent privé qui, par exemple, sort des pays de manière illégale sans être taxé. Donc, on a accumulé ces différents flux et on est arrivé à cette estimation donc, de 1 000 milliards de dollars par an. Alors, il faut dire que, donc, tout d'abord, c'est des estimations, mais en même temps, on a croisé différentes méthodologies. Notamment, on a utilisé des chiffres de l'ONU et du FMI. Et on a utilisé une estimation très conservatrice. D'autres estimations montrent que le montant pourrait être beaucoup plus important. Il pourrait être du double. Il pourrait aller jusqu'à 2 000 milliards de dollars par an.
Votre association One formule 4 revendications. Notamment, vous appelez à lutter contre l'opacité des sociétés écrans.
On ne veut pas seulement dénoncer ce scandale. Mais on veut bien sûr montrer au G20 qu'il a le pouvoir de changer les choses et de lutter contre l'opacité financière. Si cet argent s'échappe chaque année des pays en développement, c'est aussi parce que le G20 n'a pas pris suffisamment de mesures dans le passé pour lutter contre l'opacité financière. Et les sociétés écrans sont un très bon exemple parce que la majorité des sociétés écrans se trouvent dans les pays du G20 et ces structures sont utilisées pour blanchir l'argent qui est issu de corruption ou de fraude fiscale.
Frédéric Roder, directrice du bureau français de l'ONG One, au micro de Camille Grosdidier.
Ce jeudi, dans Washington Forum, la menace terroriste en Afrique. Alors que le monde s'inquiète de la présence de l'État islamique en Irak et en Syrie, des Africains vivent chaque jour sous la menace des terroristes. Al-Shabaab, Acmi, Mujao ou encore Boko Haram, ces groupes font peur. Quelle réponse apporter pour les contrer? L'option militaire est-elle suffisante? Nous attendons vos commentaires sur notre page Facebook et rendez-vous jeudi, 19h, temps universel, sur la voie de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Michael Dubinsky qui était la technique. Au micro, Claire Morin-Gibour. Nous nous quittons en musique avec Sally Niolo du Cameroun et son Bikutsi. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Thank you.
Gay, 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 gay.